Le sujet de la fidélité, c'est un sujet qu'on touche peut-être pas très souvent. Honnêtement, même si on regarde dans les librairies bibliques, vous allez peut-être trouver plus des livres sur l'épanouissement, réussir sa vie de couple, etc. Vous voyez, on est dans la réussite, dans l'épanouissement, etc. La fidélité, bien sûr, on parle de fidélité même dans ces livres-là, mais on dirait que c'est pas la préoccupation prioritaire au XXIe siècle. Alors je vous propose qu'on s'arrête un peu et puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est la fidélité et puis comment être fidèle? Alors fidèle, ça veut dire plusieurs choses. Il y a déjà le fait que Dieu lui-même est fidèle, mais je ne parlerai pas du tout de cet aspect ce soir. C'est pas mon sujet, même si c'est vrai que Dieu est fidèle et d'une manière qui nous dépasse. Nous allons parler de notre fidélité, comment être fidèle à Dieu, premièrement. Ensuite, comment être fidèle dans notre travail, comment être fidèle dans le couple, comment être fidèle à l'Église, comment être fidèle en amitié. Voilà, cinq occasions de montrer de la fidélité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Bon, le mot français fidélité vient de fidélis, qui est un dérivé de fides qui veut dire foi. Les deux idées sont assez proches. Être fidèle et avoir la foi, c'est quasiment la même chose, vous voyez? On est fidèle parce qu'on croit en quelque chose. Hein, ou on est fidèle à quelqu'un parce qu'on croit en lui aussi. Vous voyez, que ce soit d'ailleurs en latin ou en grec c'est pistis qui veut dire foi. Donc, dans les deux cas, il y a l'idée un attachement, d'une confiance, d'un engagement. Voilà. C'est un lien qui est fort et qui nous amène à agir dans la confiance et en respectant un engagement. Alors, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup de nos jours. Si on entend, par exemple, à la fin du journal de 20 heures, ce journal est terminé, merci de votre fidélité. Voilà, là on l'entend. C'est-à-dire, c'est sous-entendu ceux qui regardent tous les jours le même journal. Bon, ceci étant dit, les téléspectateurs zappent, hein, en réalité. Vous allez sortir du magasin, on va vous dire, est-ce que vous avez la carte de fidélité du magasin? Alors vous dites oui ou non, mais en réalité, vous avez souvent 4 ou 5 cartes de fidélité dans votre poche. Hein. Donc ce n'est pas une vraie fidélité, celle-là. Également, dans le sport, vous allez entendre, grâce à ses fidèles supporters, l'équipe a tenu bon. Alors les fidèles supporters. Bon, en réalité, les fidèles supporters, quand l'équipe marche mal, ben, souvent, ils sifflent ou ils quittent le stade. Vous voyez, comme quoi, on a quelques opportunités d'entendre le mot, mais c'est pas toujours très solide, hein, comme fidélité. Enfin, en tout cas, retenons que c'est ça la fidélité, c'est l'idée d'un engagement, d'une confiance que l'on met en quelqu'un, en quelque chose, et ça nous amène à être toujours là. Alors, bien sûr, on va voir ce que ça veut dire dans la vie. Ça va s'appliquer à plusieurs sortes de relations. La relation du croyant avec Dieu, on va dire un chrétien fidèle, ou on va dire aussi un fidèle, les fidèles. Hein, l'orateur s'est adressé aux fidèles, voilà, c'est aux assistants qui sont là. On va en parler dans le cadre du conjoint, un mari fidèle, ou un mari infidèle. Et puis, dans d'autres relations, un ami fidèle, voilà. Et puis, alors voilà, fidèles supporters, fidèles auditeurs, fidèles clients. Hein. Bon, peut-être, pourquoi pas. Enfin, l'idée est toujours la même, c'est l'idée de confiance et de quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que la fidélité, au XXIe siècle, c'est un peu un miracle quand même, parce que le temps n'est pas la fidélité. Hein. Et je dirais que c'est un fruit de l'esprit. Ça fait partie des 9 aspects du fruit de l'esprit. Alors, dans certaines traductions, vous avez la foi à la place de la fidélité, mais c'est parce que les deux mots sont très très proches. La fidélité fait partie de ces bons fruits que Dieu produit en nous lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui va forcément contraster avec les gens qui nous entourent. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine. En 1810, Charles Fourier, qui était un biologiste, a dit: la fidélité est contraire à la nature humaine. En 2008, des chercheurs suédois ont même découvert, paraît-il, le gène de l'infidélité, porté par 40% des hommes et par très peu de femmes. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Et puis, bon, rappelez-vous d'un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait L'amour dure 3 ans. Voilà, on évalue que l'amour amoureux, la flamme, qui dévore comme ça et puis qui vous tient attaché à quelqu'un fortement, dépasse rarement 3 ans. Voilà. Vous voyez le contexte dans lequel on vit. C'est pas vraiment dans la nature humaine d'être fidèle. Ce n'est pas non plus dans l'air du temps, C'est qu'en France, un mariage sur deux finit par un divorce, et que parmi ces donc 50% de mariages qui se terminent par un divorce, 35% de ces divorces sont dus à une infidélité. L'infidélité de l'un des deux conjoints est le point de départ de la rupture. Donc on voit les dégâts de l'infidélité dans la société. Et puis, on est dans une société où tout bouge. On change de travail, on change de domicile, on change d'artisan. Hein, vous n'êtes plus content d'un artisan, vous en prenez un autre. Autrefois, on gardait souvent le même, il me semble. On change de supermarché, voire même d'église, ou encore d'opérateur téléphonique. Et tout vous incite dans la publicité à changer. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant ? Comment être fidèle tout d'abord à Dieu ? C'est quand même ça le plus important. On va prendre des exemples à chaque fois. Un bon exemple de quelqu'un qui est fidèle, c'est Job. Parce que Job, bon, c'est un homme qui a souffert, hein, vous connaissez l'histoire, il a perdu tout d'abord ses troupeaux, il a perdu ses enfants, il a perdu ensuite sa santé, et à la fin il est complètement découragé, il souffre même dans sa chair, et sa femme vient lui dire « Maudit Dieu et meurt ». Hein. Elle lui dit « Reste-tu encore ferme dans ta perfection, maudit Dieu et meurt, voilà, insulte Dieu et suicide-toi ». Hein, c'est insupportable, ce que Dieu t'a fait, c'est pas possible. Et voilà ce que va dire Job. Tu parles comme parlerait une insensée. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. On voit que Job accepte la situation, et il va rester dans la foi en Dieu, et dans la fidélité à Dieu, malgré tout ce qui lui arrive. Et je trouve que c'est un bel exemple de fidélité, parce que elle montre que la fidélité se montre dans l'épreuve en réalité. Tant que la vie est facile, que tout coule de source, que tout va bien dans votre famille, dans votre vie professionnelle et dans votre santé, vous n'avez pas de raison de vous révolter contre Dieu. Mais quand tout s'écroule, c'est là que c'est dur. Et c'est là que brille la fidélité. Voilà. Il est dans une épreuve à son comble, même son épouse craque, on peut dire, hein, et lui, il reste fort, voilà. Il ne va pas faire ce qu'elle dit, mais il ne va pas renier Dieu, ni se suicider. Alors, c'est une première chose qu'on va faire ressortir, c'est que la fidélité du croyant se manifeste par l'épreuve. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 1er. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. C'est dans la difficulté que le chrétien va montrer si oui ou non il est capable d'être fidèle. Et alors, ça peut commencer dans des très petites choses. Jésus l'a dit dans l'évangile, celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Celui qui est injuste dans ce qui est petit est injuste dans ce qui est grand. Voilà. Ne nous disons pas que seuls les chrétiens qui accomplissent de grands exploits sont des gens fidèles. Non. La fidélité peut être dans des petites choses du quotidien, des choses que personne ne voit, que vous faites au quotidien, que Dieu seul voit et qu'il apprécie. Hein. Je prends un exemple, hein, s'arrêter au feu rouge à 3h du matin, personne ne vous voit, bon, vous dites je dois respecter les autorités, donc je m'arrête au feu rouge. Personne ne vous voit, seul Dieu vous a vu, c'est bien, il a vu que vous aviez marqué l'obéissance aux autorités, même si c'était 3h du matin et que personne ne vous voyait. Voilà. Par contre, si vous passez, bon, évidemment, vous avez tué personne, mais enfin, vous n'avez pas été fidèle. Voilà. Et pour moi, c'est ça, la vraie fidélité, c'est celle que vous allez mettre en œuvre quand personne ne le sait et que personne ne vous voit. Cette fidélité des petites choses. Alors, Jésus dit ailleurs, hein, celui qui est fidèle en ce qui est petit, on va lui donner des grandes responsabilités ensuite. Il faut commencer par les petites choses et ensuite, Dieu nous donne des grandes occasions de le servir. Deuxièmement, la fidélité, elle est sans limite. C'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à la mort. Apocalypse 2, verset 10. Jésus s'adresse à une église qui est dans la souffrance, dans la persécution. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Quand on est fidèle, on ne calcule pas la dépense. Ça peut être, par exemple, un jeune chrétien ou une jeune chrétienne qui va renoncer à une relation sentimentale avec un non-chrétien, par exemple, ou avec quelqu'un qui a beaucoup d'atouts, mais enfin qui ne craint pas Dieu, par exemple. Voilà. Renoncer à un mariage. Ou à une situation qu'on va refuser un travail parce que on veut, ce travail, par exemple, nous amènerait à être trop absorbé par lui et qu'on veut avoir plus de disponibilité pour servir Dieu, on va refuser une situation. ou bien carrément un missionnaire va partir à l'étranger en abandonnant son travail. Voilà. C'est aussi renoncer à des vacances. Par exemple, beaucoup de jeunes chrétiens vont consacrer leur temps de vacances à faire des colonies de vacances, des camps de vacances, où ils vont s'occuper d'enfants, etc. Ils le font pour Dieu. C'est une manière de renoncer à quelque chose dans la vie. Donc, quand on dit « sois fidèle jusqu'à la mort », c'est pas forcément qu'on va donner notre vie pour Dieu, ou qu'on va en mourir. C'est qu'on va donner des petits morceaux de vie. Voilà, c'est ça, hein, en réalité. Voilà. C'est comme dit Romains 12, « offrez vos corps en sacrifice vivant hein. ». Il ne s'agit pas de mourir, forcément. Peut-être, ça peut arriver. Mais en réalité, bien souvent, on va donner un morceau de notre vie à Dieu. Et aussi, vous allez remarquer, je te donnerai la couronne de vie, donc, c'est-à-dire que Dieu rend ce que l'on a donné. Hein. On est prêt à mourir, alors il donne la couronne de vie. Ce qui est aussi un point important à souligner, c'est que la fidélité coûte souvent, mais que la fidélité est toujours source de bénédiction. D'une autre manière, Dieu ne va pas être le débiteur de celui qui est fidèle, il va pas forcément lui rendre exactement la même chose, il va lui rendre d'une autre manière, mais il sera béni. L'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. Hein. Hâte de s'enrichir, quitte à être malhonnête, eh bien, voilà, il n'aura pas la bénédiction de la part de Dieu. Donc, soyons certains que la fidélité, le chemin de fidélité, c'est pas forcément un chemin facile, mais c'est un chemin qui attire sur nous la bénédiction qui vient de Dieu. Voilà pour fidèle à Dieu. On va parler maintenant de la fidélité dans le travail, parce qu'il y a des versets, des passages aussi qui nous en parlent. On a un bel exemple en Daniel. Alors, rappelez-vous, Daniel, Ancien Testament, donc c'est un Hébreu qui est déporté à Babylone. Il est à la cour du roi de Babylone, à la cour des Perses d'ailleurs, à cette époque-là, donc gouverneur perse qui est à Babylone. Et on nous dit que, voilà, il a des collègues qui lui veulent du mal, qui essaient de le piéger, qui essaient de le surprendre à commettre des fautes, qui sans doute convoitent sa place parce qu'il est très apprécié par le gouverneur. Et on lit ceci, les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans l'administration du royaume quelques sujets d'accusation contre Daniel. Et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation, ni aucune faute, parce qu'il était fidèle, et aucun manquement, ni aucune faute ne se trouvant en lui. Voilà un homme irréprochable. C'est d'autant plus méritant que, n'oublions pas la situation, il est déporté, il n'est pas dans son pays, il travaille pour d'ailleurs un gouverneur païen, hein, mais pour autant, il fait son travail le mieux possible. Voilà. Et ça peut nous arriver aussi d'avoir des patrons athées, hein, admettons, ou bien de travailler pour des entreprises qui n'ont pas forcément le souci de travailler à la gloire de Dieu. Mais notre responsabilité, c'est de faire le mieux que nous pouvons, d'être des employés qui sont loyaux vis-à-vis de leurs employeurs. Voilà. Et c'est ce que faisait Daniel. Et il était sans faille. Hein, on ne trouvait rien chez lui qui cloche. Joseph aussi. Même situation. Hein, Joseph, fils de Jacob, il est en Égypte, il a été vendu comme esclave. C'est pareil, il est chez les Égyptiens, ce sont des idolâtres. Pour autant, il devient l'homme de confiance de son patron. Il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui. Il ne prenait avec lui connaissance d'aucune chose, sauf du pain qu'il mangeait. Ça, c'est la première situation. Alors, vous connaissez la suite. Malheureusement, il va être piégé hein, par la femme de son patron. Il va se retrouver en prison, faussement, injustement. Et là encore, même quand il est dans la prison, on va encore lui donner des responsabilités. C'est-à-dire qu'on va lui demander de s'occuper des autres prisonniers. Le chef de la tour mis en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui se faisait là, c'est lui qui le faisait. Voilà. Voilà quelqu'un qui, où qu'il se trouve, même s'il est, encore une fois, loin de sa famille, promené d'un maître à l'autre ou en prison, il est toujours serviable, il est toujours loyal, et il est là pour faire de son mieux. C'est vraiment l'illustration même de l'expression « faire contre mauvaise fortune bon cœur ». Voilà Joseph. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur, où qu'il soit. Et donc, du coup, on lui fait confiance et on lui donne les responsabilités. Alors, chaque fois, je vais citer aussi quelques versets des Épîtres, parce que c'est ce qui me donne les exhortations. Paul parle de la manière dont les employés doivent se comporter vis-à-vis des patrons. Alors, il le fait dans le contexte de l'époque où on était esclaves. Hein. Il y avait les maîtres et les esclaves, c'était pas les patrons et les employés. Mais on peut très facilement transposer. Hein. On va garder le vocabulaire de l'époque, peu importe, c'est la même situation. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisant, hein, pas d'esprit de révolte, ne détournant rien, hein, ne pas voler au patron, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Voilà. Même si un patron, encore une fois, n'est pas chrétien, il doit reconnaître que ses employés chrétiens sont fiables. Alors, vous voyez ce que ça va, complaisant, hein, complaire en toutes choses. C'est-à-dire, complaire, ça veut dire, c'est prendre soin de plaire, faire tous les efforts nécessaires pour plaire. C'est ça, complaire. Soumis, complaisant, pas contestataire, pas de petit vol. Hein. Moi, en tant qu'enseignant, mes collègues sont souvent contestataires. Hein. Vous savez, les syndicats d'enseignants, c'est les plus puissants de France. Hein. Bon. voilà, moi, je m'efforce toujours de montrer un maximum de respect. À mes patrons, hein, au principal du collège. C'est le principal. Je peux dire ce que je pense si je suis pas d'accord, mais en dernier recours, je me soumets. Voilà. Alors que, bon, parfois, il y a des collègues qui sont un peu vindicatifs, hein, qui se permettent, prennent des libertés que moi je ne prendrai pas. Je vais dire ce que je pense. Si ça convient pas à mon supérieur, j'exécute. Hein, voilà, je fais. Je fais ce qu'on me demande. Bon, puis les petits vols, hein, les photocopies personnelles qu'on fait à la photocopieuse dans la salle des profs, enfin voilà. Il y a des manières comme ça dans tous les métiers, hein, de se promettre des petits vols. Maintenant, le chrétien, il est consciencieux et il va se montrer fidèle dans les petits détails comme ça dans la vie professionnelle. Même chose dans Éphésiens 6, hein, c'est le passage parallèle où Paul dit à peu près la même chose. Il parle même de crainte. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur. Voilà, pas de calcul, hein, n'essayez pas de magouiller ou quoi que ce soit. Comme à Christ, voilà, comme à Christ. C'est-à-dire, au-delà de votre patron qui est ce qu'il est avec ses défauts, ses colères, ses exigences parfois un peu injustes, faites comme si vous serviez Christ au travers de lui. Voilà, c'est un appel à sublimer, hein, à voir au-delà. C'est quelque chose qui nous aide aussi de voir au-delà de la personne qu'on a en face, de dire, bon, allez, je le fais pour le Seigneur, il est comme il est, mais enfin, je fais l'effort pour le Seigneur. Ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement, comme asservi au Seigneur. Vous voyez, ça s'appelle sublimer. C'est-à-dire qu'on voit au-delà de la circonstance présente et de la personne qu'on a en face de nous, pour le faire pour le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Et croyez-moi, les patrons, ils sont sensibles. Hein. Ils savent apprécier aussi quand même, la bonne volonté et le bon esprit de leurs subordonnés. Alors vous allez me dire, c'est un peu dur parce que on aurait pu imaginer que Paul allait tout faire pour renverser l'esclavage. Hein, et on voit que non, en réalité. Hein, il ne cherche pas, il n'est pas sur ce terrain-là. Ça, c'est de la politique, hein, renverser l'esclavage. Le christianisme n'a pas d'ambition politique. Il ne cherche pas à changer les structures de la société. Il va simplement mettre de l'amour. Il les respecte telles qu'elles sont. Il ne discute pas avec les structures de la société. Il met de l'huile dans les engrenages. C'est ça que fait le christianisme. Voilà. On ne veut pas changer le moteur. On met de l'huile dans le moteur. Et donc, Paul, dans la foulée, n'en reste pas là, parce que sinon, il fait quand même un peu la promotion de l'esclavage. Il va s'adresser au maître, et au maître, il va être aussi exigeant. Il va leur dire, faites de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Alors, si le maître a un maître au-dessus de lui qui est dans les cieux, alors c'est plus le maître absolu. Et donc, il n'y a plus d'esclavage, en réalité. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que Paul abolit l'esclavage, mais sans toucher à rien. Hein. Il en change le caractère, puisque le maître n'est plus le maître absolu. À partir de là, c'est un patron. C'est un patron, tout simplement. Voilà. Et donc, la fidélité du patron, c'est aussi de respecter ses employés. Renoncer aux menaces. Enfin, ne pas se considérer comme ayant tous les droits au-dessus de mes employés, sur mes employés. Voilà pour le travail. Ensuite, grande question. Alors là, on pourrait faire toute une réunion, puis même un séminaire de 8 jours. La fidélité dans le couple. Alors, Moi-même, je suis marié depuis 5 ans seulement, hein, donc je ne vais pas me poser en donneur de leçons. Je me suis marié un peu sur le tard, hein, je me suis marié à 48 ans, donc j'ai 5 ans de mariage, avec des hauts et des bas, comme partout. Hein. Donc je vais me garder de vous prendre de haut, je vais essayer de donner quelques repères bibliques. L'exemple d'Adam et Ève. Je trouve que le couple Adam et Ève est fondateur pour comprendre ce que c'est que la fidélité dans le couple. Comment est-ce que Ève a été créée? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Ce qui montre que le mariage c'est une chance, c'est un plus, hein. C'est une plus-value. Voilà. C'est quelque chose que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, car il n'est bon pour personne d'être seul. Donc c'est un plus. Il faut déjà le réaliser. Ensuite, comment il fait? Il va prendre une côte donc de l'homme, il l'amène vers l'homme, et l'homme dit cette fois-ci, cette fois, celle-ci est haut de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Donc, je crois que Adam et Ève nous donnent une bonne vision de ce qu'est le mariage, le couple. C'est un plus. Il y a entre l'homme et la femme une complémentarité. Troisièmement, l'épouse devient prioritaire par rapport à tous les autres cercles familiaux, c'est-à-dire les parents. L'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Voilà, les parents, les frères et sœurs. Il y a une priorité qui s'établit, qui doit s'établir, qui va aider. Et puis, quatrièmement, alors c'est peut-être le plus fort, ils seront une seule chair, c'est-à-dire que l'union dans le mariage d'un homme et d'une femme est comparé à une fusion, quasiment. Bon, on m'a déjà dit que c'était exagéré. Bon, peut-être, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est devenir un seul corps. Et quand vous déchirez un seul corps, ça fait mal. Hein. On ne peut pas déchirer un seul corps comme on démonte une voiture. Bon, quand c'est un corps, normalement, ça ne se coupe pas en deux. C'est pas possible. Hein. Une voiture, oui, on peut la démonter en dévissant les boulons, mais un corps, on ne sait pas faire. Enfin, ça ne peut pas marcher. Voilà. Là, il y a quand même des bases importantes. Alors, un mauvais exemple maintenant. On a aussi des mauvais exemples. Hein, de Adam et Ève nous donnent une base. Je ne dis pas que c'est un bon exemple d'un couple idéal, mais enfin, ils nous donnent des bases. Voilà un très mauvais exemple. Donc, l'infidélité de David envers Bathsheba. C'est intéressant de se pencher sur le récit. Comment ça s'est passé? Il arriva au temps du soir que David se leva au-dessus de son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi. Et du toit, il vit une femme qui se lavait, et la femme était très belle à voir. Et vous connaissez la suite, il va la convoquer au palais, il va coucher avec elle, elle va avoir un enfant, et ensuite il va faire tuer son mari pour pouvoir l'épouser. Donc, la situation, on la voit. Les raisons qui ont amené David à cette action, déjà, il est oisif, ses soldats sont à la guerre, lui il se repose. On dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, hein, vous connaissez la phrase. L'oisiveté, c'est pas bon. Deuxième chose, il est sur son toit, il regarde par-dessus le toit, par-dessus les clôtures des maisons voisines. Hein. C'est comme ça qu'il a vu Bathsheba. Sorte de voyeurisme. Ça aussi, si on commence à se poster, hein, se positionner pour voir longuement, hein, observer, c'est aussi dangereux. Et puis, bon, il est impardonnable, hein, ben, parce qu'il est déjà marié, il est prince, enfin voilà, et il a tout ce qu'il veut pour réussir, et puis il va aller jusqu'au crime pour pouvoir légitimer et camoufler finalement son péché. Donc il a toutes les circonstances aggravantes. Donc on voit qu'il va être très sévèrement puni par Dieu. Rappelez-vous, la suite de l'histoire, Nathan le prophète vient le voir, il raconte une histoire d'un homme qui n'avait qu'une brebis, un autre qui en avait beaucoup, et puis il a volé la brebis de celui qui n'avait qu'une. Et David dit, cet homme mérite la mort, il va rendre ça au quadruple, il doit lui rendre 4 brebis. Et Nathan lui dit, tu es cet homme, toi tu as volé la brebis de Uri. Et effectivement, David va rendre ce qu'il a volé au quadruple, puisque 4 de ses fils vont mourir. Donc le bébé qui naîtra de Bathsheba, Amnon qui sera assassiné, Absalom qui va être tué d'un accident, et Adonijah qui sera exécuté par Salomon. Donc vous voyez, David a prononcé son propre jugement. Mais au passage, vous voyez avec quelle sévérité Dieu punit l'adultère. C'est ce que dit Proverbe 6, verset 32-33. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens, celui qui le fait détruit son âme, il trouvera plaie et mépris, et son opprobre ne sera pas effacé. Et il trouvera plaie et mépris, c'est-à-dire à la fois plaie, la punition divine, on peut dire, hein, et puis mépris, c'est-à-dire la colère et l'amertume du conjoint qui a été blessé, qui a été trahi. Voilà. Donc vous voyez à quel point l'adultère est sévèrement dénoncé dans la Bible. Voilà, malheureusement, on sait que de nos jours, c'est monnaie courante. Alors, je propose, avec mes 5 ans de mariage, hein, j'ai un peu réfléchi à comment éviter l'infidélité et donc le divorce. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais presque. C'est-à-dire comment, finalement, former des couples forts. Alors, je vais faire une comparaison, si vous voulez, avec un jardin. On dit qu'il faut cultiver son jardin. Je vais un peu élargir le sujet. Première chose, je crois qu'il y a le problème, souvent, de l'infidélité, c'est que le terrain était mal préparé. C'est-à-dire que, avant de se marier, les personnes ont multiplié les expériences. Et ça, c'est un préalable qui permet d'entrer dans le mariage avec des difficultés, parce qu'on s'est habitué à changer. Et la Bible nous dit, fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Celui qui donc a des relations avant le mariage se fait du mal à lui-même. Et entre autres, parce qu'il s'habitue au changement et aux comparaisons, etc. Et donc, ça va être plus difficile pour lui d'être fidèle ensuite. Donc, il y a une préparation en amont du mariage qui consiste à être chaste avant le mariage. Deuxièmement, on va planter donc un nouveau couple, il faut qu'il ait des racines solides. Se baser vraiment, faire soi, faire sien, cette exclamation, cette phrase de la Genèse, ils seront une seule chair. Et là, l'exclamation de Adam, celle-ci est eau de mes os et chair de ma chair. Voilà. Avec des témoins. On le voit dans le mariage de Ruth, vous êtes aujourd'hui témoin, je me suis acquis pour femme Ruth. Et je crois beaucoup au mariage solennel. Voilà. Pas au mariage en catimini, ni au mariage où on rit beaucoup. Et puis voilà. Je crois beaucoup que le mariage doit être un instant solennel. Alors avec mon épouse, moi j'ai tenu à ce qu'on prononce ces phrases un peu traditionnelles, mais enfin. Je m'engage à t'aider à te rester fidèle dans les bons et les mauvais moments, et à te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, on a prononcé ça tous les deux devant environ 300 personnes, et je trouve que dire ça devant 300 personnes, quelque part, vous plantez des racines. Voilà. J'ai dit ça devant 300 personnes. Et quand je me regarde dans la glace, et que, imaginons, je sois en train d'envisager d'être infidèle, tu as dit devant 300 personnes et devant Dieu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Moi, je crois beaucoup à cette manière de s'engager devant témoins avec solennité. Et donc, bien sûr, un mariage peut être quelque chose de joyeux, mais ça doit être aussi solennel. Pour moi, c'est inévitable. Voilà. Et pensez-y avec les jeunes que vous avez autour de vous. Je dirais, n'acceptons pas des mariages trop légers. Voilà. On est là aussi, à un moment donné, pour dire, attendez, vous allez vous marier, c'est solennel, c'est sérieux. Donc, il faut que ce soit un engagement sérieux devant Dieu et devant témoins. Alors ensuite, une fois qu'on est marié, il va s'agir d'entretenir le jardin. Plusieurs choses. Désherber. Désherber, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes. Enlever, finalement, les excuses possibles qui pourraient nous amener à l'infidélité. Regardez, par exemple, Elkana, c'est le mari de Anne, donc le père de Samuel. Début du premier livre de Samuel. On voit ce couple. Et il y a un problème dans ce couple, c'est que Anne n'a pas d'enfant, ne peut pas avoir d'enfant, elle ne réussit pas à avoir d'enfant. L'Éternel avait fermé sa matrice, voilà, ça nous est dit comme ça. Et pourtant, on voit que Elkana aimait Anne, voilà. Et il lui dit d'ailleurs, ne vaux-tu pas mieux que pour moi que 10 fils. Vous voyez, il a évacué la fausse excuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on entend souvent, peut-être plus au Congo qu'en France. Hein. C'est une question qui m'a été posée X fois quand je voyageais au Congo. Est-ce que lorsque mon épouse ne devient pas grosse, comme ils disent là-bas, j'ai le droit de divorcer? Alors, ça revenait dans tous les villages où je passais. Voilà, ça fait partie des fausses excuses, des mauvaises herbes qui nous envahissent. Non, Elkana, il aimait Anne. Voilà, même si elle ne lui donnait pas ce qu'il espérait. Alors, la phrase est importante. Elle ne me donne pas ce que j'espère. Voilà, et dans le couple, il y a toujours un point sur lequel votre conjoint ne vous donne pas exactement ce que vous espérez. Hein, c'est inévitable, parce que le mariage, c'est la rencontre de deux personnes imparfaites. Et donc, à un moment donné, il y a un peu de frustration. Mais ça ne doit pas être une mauvaise excuse pour être infidèle. Autre chose qu'il faut évacuer un peu de notre vie, donc les fausses excuses, on les évacue. Autre chose, c'est les mauvaises habitudes ou les mauvaises postures, dont je parlais tout à l'heure. Dans les proverbes, il est question de la femme étrangère, la femme fardée. Hein. Éloigne ta voix d'auprès d'elle et ne t'approche point de l'entrée de sa maison. Vous voyez, il y a une manière d'entretenir des relations ambiguës avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, qui peuvent vous amener à chuter. Et donc, il faut là aussi faire le ménage et savoir garder les distances et créer les distances et respecter les distances nécessaires. Hein. Voilà, c'est pas pareil de voir une femme passer devant chez moi et me dire « Bon, cette femme est charmante, point final. » Ou de me poster tous les matins à la même heure, sachant qu'elle passe, pour la regarder et chaque fois me dire « Ouh, qu'elle est belle, ouh, qu'elle est belle. » Et c'est tous les jours, voyez. Là, je commence à rentrer dans quelque chose de dangereux. Donc, il y a aussi un certain ménage à faire dans nos postures et nos habitudes. Et puis, on va pas voir quand même les choses que sous un angle négatif. Alors, on est sur du négatif, on chasse les mauvaises herbes, mais aussi il y a l'idée de cultiver le couple. Et 1 Corinthiens nous exhorte dans ce sens, que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement la femme au mari. D'ailleurs, il est précisé que la femme ne dispose pas de son propre corps, d'ailleurs, c'est le mari qui en dispose, alors ça ne s'arrête pas là, hein. Et le mari ne dispose pas non plus de son propre corps, c'est la femme qui en dispose. Donc, le mariage est un don réciproque. Et pour élargir un peu, alors là je crois que c'est au niveau sexuel, mais globalement, il est important que dans le couple, chacun recherche ce dont l'autre a besoin. Alors, il y a des spécialistes hein, sur ces questions, moi je ne suis pas spécialiste. Par exemple, j'ai entendu un frère il n'y a pas longtemps qui disait, attention, l'homme cherche l'action dans le couple. Hein. L'homme cherche l'action, faire des choses ensemble, la femme cherche la relation, être ensemble. Alors, c'est pas toujours aussi net, hein, mais il y a des petites nuances. Et donc, il faut savoir que ce que notre conjoint attend n'est pas exactement ce que nous attendons. Donc, ça demande un minimum d'écoute. Ça demande de l'écoute. Pas forcément d'être des champions de psychologie, hein. Moi, je ne le suis pas, hein. Mais au moins de l'écoute. Voilà. Parce que sinon, ça serait compliqué. S'il fallait tout savoir la psychologie de la femme, à mon avis, c'est pas simple. Mais en tout cas, de l'écoute pour ma femme. Voilà. Comment elle est elle, j'essaie de comprendre comment elle est elle. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Qu'est-ce qu'elle veut? De quoi elle a besoin? Et entre autres, je trouve que là, l'exhortation de Éphésiens 5 prend tout son sens. Alors, ça c'est un passage, vous lisez ça sur un plateau de télévision, vous allez chez BFM TV, vous lisez ça devant la France entière, vous ressortez par la fenêtre, hein, je peux vous dire, là c'est plus du tout d'actualité. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Mais Marie, aimez vos femmes, vos propres femmes, comme le Christ a aimé l'Assemblée. Voilà ce que dit la Bible. Il invite les femmes à la soumission à leur mari et les hommes à l'amour de leur femme. Alors le mot soumission, c'est insupportable dans la société d'aujourd'hui. Mais bon, la Bible le dit, c'est pas par hasard. Et déjà remarquez que c'est soyez soumises. C'est-à-dire, la femme va offrir sa soumission. C'est pas l'homme qui exige la soumission, c'est la femme qui la donne. De la même manière que la femme n'exige pas l'amour du mari, c'est le mari qui le donne, volontairement. Et je pense que ça correspond à, là encore, sans faire de la psychologie très très fine, aux aspirations des hommes et des femmes qui sont différentes. Un homme, pour être vraiment, se sentir vraiment homme et s'épanouir, il a besoin d'avoir des responsabilités, de se sentir responsable de quelque chose. Imaginons un homme qui, dans sa vie professionnelle, familiale, avec sa famille, avec ses amis, il est toujours dans l'exécution de ce que les autres lui disent de faire. Il ne vit pas, cet homme-là. Et donc, la femme va faire à son mari le cadeau de se sentir le patron de la famille, déjà, de sa femme. Il est le patron, il sait, au travers de l'attitude de sa femme, qu'il est considéré comme le patron de sa famille, comme le chef de famille. Et ça fait grandir un homme. Voilà. Ça lui donne de la confiance en lui. Il se sent bien dans ses baskets. Et pour une femme, c'est un peu différent. C'est moins cette préoccupation-là. C'est moins cette préoccupation-là. Par contre, de savoir que son mari l'aime, et puis qu'il est prêt à tout pour elle, à tout casser, à tout sacrifier pour elle, ça c'est important. Elle se sentir un peu, on dit c'est le ministre et la princesse. Un homme il a besoin de se sentir un ministre, et une femme elle a besoin de se sentir une princesse. C'est-à-dire qu'il y a un prince, mais qui est prêt à tout pour lui faire plaisir. Voilà. À se sacrifier. Elle sent qu'il est capable de se sacrifier. C'est ce que dit Paul. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'assemblée, l'église, hein. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il a donné sa propre vie pour l'église. Voilà le modèle que Dieu donne au mari, être prêt à se sacrifier jusqu'à donner sa vie, mais c'est pas toujours sa vie, c'est un petit peu de son intérêt, parfois, et de son choix, de dire, bon, moi j'aurais voulu qu'on aille se promener à tel endroit, écoute, si ça c'est du plaisir, on va à un autre endroit. Hein, comme une fois, hein, ma femme veut marcher à pied, moi je veux faire du vélo. Bah, on va marcher à pied, je vais pas en faire une affaire. Voilà. C'est ça, les petits gestes, les petits sacrifices qui font que la femme se sent aimée. Bon, voilà, j'ai pris un petit exemple, hein, je suis pas champion, hein, mais c'est un petit exemple que j'ai pris comme ça. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi la fidélité à nos amis, et puis particulièrement à l'église, à la communauté locale, l'église locale, l'assemblée locale, c'est important. On voit des beaux exemples là aussi. On a Philémon. Philémon, au début de son épître, de l'épître de Paul à Philémon, on lit « Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Alors regardez cette phrase, elle est quand même assez étonnante. L'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus, bon là on comprend, il aime le Seigneur Jésus, il a foi au Seigneur Jésus, et pour tous les saints, c'est-à-dire pour toute l'Église. Autrement dit, il a de l'amour pour toute l'Église, bon là on comprend aussi, mais il a aussi de la foi pour toute l'Église. Vous voyez ? Ça veut dire, c'est étonnant, parce qu'on ne croit pas en l'Église, on croit en Dieu, normalement, on croit en Jésus. Si, parce que, c'est-à-dire qu'il croit en l'Église en réalité, il croit en la valeur de l'Église, il croit que c'est la famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et à partir de là, ça devient important pour lui. À partir de là, il se sent des devoirs. Il a envie de s'engager, de s'investir pour l'Église. Parce qu'il croit en son importance. Voyez. Et c'est ça le point de départ de la fidélité à l'Église. C'est qu'on croit à la valeur de l'Église. C'est important l'Église. C'est le peuple de Dieu. C'est la famille de Dieu. C'est les gens que Dieu aime et qui aiment Dieu. Voilà. Et donc, il en résulte que sa foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous. Donc, il accueille volontiers Paul qui vient pour prêcher à l'égard du Christ Jésus. Nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour parce que les entrailles des saints sont rafraîchies. Alors excusez-moi, la traduction elle est un peu ancienne, où le cœur des croyants sont rafraîchis par toi, frère. Voilà. Donc du coup, comme il croit en la valeur de l'Église, eh bien, il la respecte et s'appliquer à faire du bien à chacun des membres de l'Église et de son Église locale, à Colosse, dans la ville de Colosse, où il habite. Donc la foi envers les saints, voilà, croire en l'Église. Du coup, il l'accueille, il apprécie les serviteurs de Dieu, il fait du bien, on peut lui demander un service. C'est ce que fera Paul dans la suite de son livre, il va demander à Philémon d'accueillir Onésime, l'esclave qui s'était enfui et qu'il lui renvoie. Il sait qu'il peut compter sur lui. Alors il y a d'autres bons exemples comme ça. Des belles expressions pour la famille de Stéphanas, par exemple. 1 Corinthiens 16, elle est les prémices de l'Achaïe. Ils se sont voués au service des saints. Voilà, ils se sont consacrés au service de l'Église. Ils sont au service de tous les membres de leur Église, de la communauté. Gaius aussi, dans la troisième épître de Jean, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères. » Et cela envers ceux-là même qui sont étrangers. Hein, on sait que dans l'église naissante, c'était pas toujours facile de mélanger les premiers chrétiens d'ethnies différentes. Lui, à partir du moment où ils sont chrétiens, ils sont de Jésus-Christ, il accueille tout le monde. Voilà, il est accueillant envers tous. Tu agis fidèlement. Voilà, parce que tu crois aussi à l'église. Tu crois que quand on est de l'église, qu'on soit français, qu'on soit, bon, à l'époque, évidemment, grec, romain, juif, tout ce qu'on voudra, égyptien, on est membre de l'Église, à partir de là, on doit être accueilli. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est marié aussi avec son église, comme on est marié avec son conjoint, avec son église locale. Ça pose une question, une vraie question. Doit-on être toujours fidèle à la même église? Voilà. Alors, je dirais pas à 100% non plus. Évidemment, si dans votre église, il se passe des choses extrêmement graves qui vous posent un problème de conscience, c'est pas non plus tenu de toujours la cautionner. Hein, imaginons, on peut imaginer le pire. Et d'ailleurs, Paul le dit, hein. Il dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, des divisions parmi vous, pour que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous. Parfois, il vaut mieux que ça explose, parce qu'il y avait là une situation intenable, insupportable, qui déshonorait Dieu. Voyez. Donc, je suis pas non plus pour toujours cautionner. Si mon église locale se mettait à, comment dire, à enseigner des choses vraiment contraires à la Bible, et si on acceptait dans l'église aussi des comportements qui sont absolument contraires à l'enseignement de la Bible, je ne sais pas si je resterai. Peut-être que je resterai le plus longtemps possible, mais je ne dis pas que je resterai non plus tout le temps. Voilà. Hein, je crois que c'est ce que dit Paul ici. Hein. Il vaut mieux la division que le n'importe quoi. Bon. Bon, voilà. Ça, c'est l'exception. Mais la règle, quand même, elle est la suivante. N'abandonnant pas le rassemblement de vous-même, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, et vous exhortant l'un l'autre. Voilà. Par contre, dans tout autre cas, soyons fidèles à notre Église. Et soyons aussi assidus à notre Église. C'est ce que dit Paul ici. Hein. N'abandonnez pas votre assemblée, votre Église. C'est-à-dire, ne prenez pas l'habitude de rater les réunions. Pas d'absentéisme. Ni non plus, me semble-t-il, ce qu'on appelle le papillonnage ecclésiastique ou le nomadisme ecclésiastique. C'est-à-dire les gens qui vont sans arrêt d'une Église à l'autre. Hein, parce qu'ils restent 2 mois dans une Église, puis il y a un petit conflit avec quelqu'un, et là, ils partent dans l'autre. Ou ils entendent quelque chose qui ne leur plaît pas. Et il part dans l'autre. Alors, peut-être que c'est des consciences très délicates, mais j'en doute. Au bout d'un moment, si on a des problèmes avec tout le monde, ceux qui ont des problèmes avec tout le monde, c'est peut-être eux le problème, en réalité. Voilà. Donc attention à cette manie, hein, qui est très 21e siècle, hein, de tourner. On fait toutes les églises. À un moment donné, on peut aussi, à un moment donné, chercher, on cherche sa voie. Enfin, à un moment donné, si on veut vraiment s'engager, si on veut être utile, il faut se fixer. Se fixer. Voilà. Donc, personnellement, je n'encourage pas du tout le nomadisme ou le papillonnage ecclésiastique. Surtout quand on est dans les responsables. Parce que le bon berger met sa vie pour les brebis. Quand ça va mal dans le troupeau, il reste accroché. Hein. Parce que sinon, c'est comme un homme à gage, dit Jésus dans Jean 10. Hein. L'homme à gage, il voit venir le loup, il laisse les brebis, il s'enfuit. Le loup les ravit et disperse les brebis. Alors que le bon berger, c'est-à-dire quelqu'un qui a des responsabilités dans une communauté locale, il est un peu un berger quelque part, il a une responsabilité de berger, de veiller sur le troupeau. Il ne doit pas s'échapper comme ça. Hein, il est quand même responsable de protéger le troupeau. Voilà. Donc, ce que je viens de dire est surtout vrai pour les responsables. Bien sûr, on ne s'en va pas comme ça, 4 à 4, parce que ça ne nous plaît pas, surtout quand on a des responsabilités. On n'abandonne pas les responsabilités comme ça. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo qui va un peu dans ce sens-là, de dire, voilà, quand on a des responsabilités, il faut tenir la barre jusqu'au bout. Je vous montrerai un tout petit extrait d'un film qui m'a touché récemment. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais vous allez comprendre la comparaison. C'est pour montrer une comparaison. Alors, il reste un dernier aspect, c'est l'amitié. Alors, c'est pas forcément l'église, hein, c'est vos voisins, enfin vos amis, un peu plus que les amis Facebook, parce que les amis Facebook, parce que c'est vraiment des amis, c'est plutôt des contacts, hein, soyons honnêtes, hein, ce sont des contacts. L'amitié, voilà, les gens que vous appréciez autour de vous. Un bel exemple, Onésiphore, c'est un ami de Paul, et Paul était en prison. Alors que fait Onésiphore? 2 Timothée 1,17, il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de ma chaîne, mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement, et il m'a trouvé. Voilà, ça c'est un vrai ami, vous voyez. Paul est en prison, il va aller le chercher en prison, il va passer pour l'ami d'un prisonnier, mais il assume, il n'a pas eu honte de ma chaîne. Il m'a cherché très soigneusement, il m'a trouvé. Il aurait pu dire, bon, j'ai cherché pendant une demi-journée où il était, je ne l'ai pas trouvé, tant pis, j'ai fait ce que j'ai pu, j'abandonne. Lui, il n'a pas lâché. Voilà. Il dit, non, je veux le voir, il faut que je le voie, il faut que je l'encourage, il est seul dans sa prison. Je cherche jusqu'à ce que je le trouve. Il m'a cherché très soigneusement, il m'a trouvé. Vous voyez, c'est pas une amitié formel, de façade. C'est une vraie amitié. Il voulait être à côté de Paul. Dans la difficulté, dans la honte, il ne fait pas semblant de s'occuper de lui. Il va jusqu'au bout pour l'encourager. Alors, d'autres bons exemples. Oui, on a donc Aristarque. Hein, Aristarque, alors lui aussi, c'est un ami de Paul. C'est un peu avant Onésiphore. C'est quand Paul est arrêté. Il va être transporté à Rome en bateau. Et on voit que Aristarque est toujours là. Il l'a accompagné dans tout le livre des Actes quand ça allait à peu près bien. Et puis là, quand il part prisonnier, Aristarque est toujours là. Voilà. L'ami de toujours. Hein. Et ensuite, en Colossiens, il dit Aristarque, mon compagnon de captivité. On voit que cet homme-là aussi, enfin, lui a été avec lui tout le temps. Même en prison. Toujours là. Et Timothée aussi parle de Luc, à un moment donné, le médecin alors. Hein. Luc seul est avec moi. On voit qu'il était là aussi en acte 27, Luc, finalement. Puisqu'il dit avec nous. Et c'est Luc qui écrit le livre des Actes. Ça veut dire que quand Paul part en bateau de Palestine en direction de Rome comme prisonnier, les deux amis qui sont là, c'est Aristarque et Luc. Ils sont avec lui jusqu'à la prison. Alors, justement, il y a plusieurs passages qui nous montrent les qualités de l'ami hein, dans la Bible. Déjà, il y a la parabole des trois amis. Vous savez, c'est un ami qui va chez un autre ami, qui arrive à minuit. Celui qui l'accueille n'a plus rien à manger, il va frapper à la porte d'un troisième ami pour lui demander du pain, à minuit. Et, voilà, il va lui à minuit, l'autre lui dit, il va lui dire, ami, prête-moi trois pains. Donc voilà, à la fois la disponibilité de celui qui accueille par surprise la visite de son ami à minuit, déjà, ce que vous le feriez, vous, on sonne chez vous à minuit, salut, c'est ton ami, ben voilà, je sais pas où aller, je peux rentrer. Bon, on n'aime pas trop se faire réveiller à minuit. Ça dépend des cultures, hein. Je peux vous dire qu'en Algérie, ça pose pas de problème, hein. Ou au Congo non plus. Au contraire, on est honoré d'avoir de la visite à minuit. La visite, que les gens ne se gênent pas, voilà. C'est une manière d'honorer votre hôte que de se présenter chez lui par surprise. Ça veut dire que vous savez qu'il est gentil. Et donc, il y a aussi la disponibilité de celui qui se laisse réveiller à la même heure pour donner du pain. Donc, c'est ça l'ami. L'ami, il est toujours disponible. Il est à l'écoute. Il est là. Voilà. On peut compter sur lui, quelle que soit l'heure. On peut téléphoner à 2h du matin s'il faut, si on a un gros problème. Ça m'est arrivé hein, de téléphoner à des amis quand j'étais en panne en voiture à 2h du matin. Ça arrive. Et là, vous êtes contente de compter sur vos amis. Là, vous voyez qui sont vos amis. L'ami, il est constant aussi. L'ami aime en tout temps. Un frère est né pour la détresse. Donc, ça montre aussi que l'amitié se révèle dans la difficulté. Hein, l'ami, il est toujours là. Malgré la difficulté, et il est là aussi malgré le conflit. L'ami aime en tout temps, même si à un moment donné on y a un désaccord, il y a quelque chose qui cloche entre nous, il reste votre ami quand même. On n'est pas d'accord, mais enfin on reste ami. On reste ami. Toujours dans les proverbes, les blessures faites par un ami sont fidèles. Ah, c'est curieux ça comme expression. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui est sont fréquents. Rappelez-vous de Judas. Hein. Les blessures faites par un ami sont fidèles. Ça veut dire que le vrai ami, c'est celui qui vous dit que vous avez du ketchup sur la joue. Voilà. C'est lui, le vrai ami. C'est-à-dire que ça fait mal. C'est un peu vexant de dire t'as du ketchup sur la joue quand même. Il ose parce qu'il veut vous rendre service. Il n'a pas envie que vous ayez du ketchup sur la joue pendant toute l'après-midi en sortant de la cantine. Hein. Voilà. C'est ça le vrai ami. C'est celui qui vous dit les choses, qui vous fait des reproches parce qu'il vous aime. Il vous blesse. Parce qu'il veut votre bien. Il sait faire les reproches, le vrai ami. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, mais la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Alors l'ami, quand il vous donne un conseil, c'est pas juste pour vous faire plaisir, il va pas vous caresser dans le sens du poil, mais il va vous donner le conseil qui vient du cœur. Voilà, ce qui est pour votre bien. Vous lui demandez un conseil, qu'est-ce que je dois choisir, ça ou ça? Il ne va pas vous dire ce qui lui vient à l'esprit tout de suite. Il va vous dire ce qu'il pense. Il va réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Voilà. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Et des fois, il va oser vous détourner de ce que vous pensiez. Il va dire, non, toi, tu veux ça, mais moi, je te dis que c'est mieux pour toi, ça. Mais que maintenant, tu n'es peut-être pas à même de le voir. Vous voyez? C'est ça, le vrai ami. Bon, après, il n'a pas forcément raison, hein, mais voilà. Il dit ce qu'il pense avec son cœur. Avec son cœur, pas juste pour encourager l'autre dans ce qu'il a envie de faire. Voilà. Alors on arrive à la conclusion. Eh bien, vous voyez, les proverbes le disent aussi. Un homme fidèle, qui le trouvera? Voilà. Et je crois qu'au XXIe siècle, c'est d'autant plus d'actualité. Et si on regarde la vie de Daniel, finalement, on peut dire qu'il est assez complet. Parce que Daniel, il est fidèle à son Dieu. Début de son livre, encore une fois, il est déporté, il est loin de son pays. On donne à manger des choses qui sont interdites par la loi de Moïse. Il refuse d'en manger. Il est fidèle à son Dieu, à ses convictions, même s'il est dans un contexte païen. Il est fidèle à Dieu, quoi que ça coûte. Ensuite, il est fidèle à son roi, on l'a vu au chapitre 6. Fidèle et loyal envers son patron, on va dire. Ensuite, Daniel 6, il est interdit de prier un autre, qui que ce soit d'autre que le gouverneur, hein, c'est ce qu'ont décidé proposer les satrapes. Il continue à prier Dieu, voilà, même s'il sait qu'il risque sa vie. Fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et puis, on le voit ensuite au chapitre 9, se mettre à genoux, prier pour son peuple Israël, qui est déporté, qui est vaincu, qui est pillé. Il va supplier Dieu de se souvenir de son peuple. Lui qui est à la cour, quand même, pas mal loti finalement, à la cour de ce gouverneur, il pourrait dire, bon, ben moi j'ai fait ma vie ici, tout va bien après tout, je m'en suis pas mal sorti. Non, il n'oublie pas le peuple de Dieu, il va prier pour que ce peuple retrouve sa liberté. Voilà un bel exemple de fidélité assez complète. Et je vous propose pour finir, alors après je vous montrerai cette petite vidéo, quelques phrases, alors écrites par des chrétiens ou pas forcément des chrétiens, je sais pas, que je trouve toutes intéressantes. Joseph de Maistre a dit « Dieu donne à la franchise, à la fidélité, à la droiture, un accent qui ne peut être ni contrefait, ni méconnu. » Voyez, la fidélité, on ne peut pas faire semblant d'être fidèle. On ne peut pas tricher. Et ça ne peut pas passer inaperçu non plus. Ça peut être ni contrefait, ni méconnu. Quand c'est quelque chose qui est la fidélité d'un chrétien, c'est-à-dire une fidélité à toute épreuve, et qui va jusqu'au bout et qui est au-delà de ce que les gens voient et qui est vraiment devant Dieu, donc qui est sincère, qui est à fond, on ne peut pas tricher avec ça, et ça ne peut pas passer inaperçu. Ensuite, Louis Bourdaloue a dit « C'est une grande chose que d'être fidèle dans les petites choses, car c'est par les petites choses que les grandes se maintiennent. » Voilà. C'est la fidélité, la petite fidélité d'un grand nombre de personnes qui maintient une société ou une église ou un groupe ou un pays debout. Balzac, peut-être la certitude est-elle le secret des longues fidélités. Et ça aussi c'est important. La certitude que c'est la femme de ma vie. Voilà. J'en suis certain, donc longue fidélité. La certitude que Dieu est vivant, que Dieu est mon Dieu. Alors je vais lui être fidèle pendant longtemps. Vous voyez, la certitude. Donc vous voyez le lien entre foi et fidélité, hein, ça va vraiment ensemble. Alors Marie von Ebner-Essenbach, excusez la prononciation. Faire confiance est une preuve de courage, parce que c'est risqué de faire confiance. Être fidèle est un signe de force. Parce que la confiance, c'est on s'appuie sur quelqu'un, la fidélité, on s'engage. Hein, c'est, donc, il faut de la force, de la persévérance, de l'engagement. Alors, je vous propose, pour finir, une petite vidéo. Bon, c'est un extrait d'un film que je trouve que je l'ai vu par hasard à la télévision, ce film. C'est un très vieux film, en noir et blanc, qui raconte l'éruption d'un volcan indonésien qui s'appelle le Krakatoa. Alors, c'est un volcan explosif, hein, c'est un volcan qui a explosé, c'était au 19e siècle, 1883. Et quand il a explosé, la montagne est tombée dans la mer, l'île presque toute entière est tombée dans la mer, et ça fait un raz-de-marée avec une vague de 20 mètres de haut. On pense que c'était le plus grand, alors c'était pas un tsunami pour le coup, puisque c'était pas lié à un séisme, mais à un volcan, le plus grand raz-de-marée de l'histoire, on pense. Et il se trouve que là, il y avait un bateau hollandais qui passait à proximité des côtes, et donc vous allez voir l'attitude du capitaine, qui pour moi illustre parfaitement la fidélité. Voilà, alors je pense que vous avez compris la comparaison. Hein. Quoi qu'il arrive, je reste à mon poste. Et non seulement je reste à mon poste, mais je m'interdis de le quitter. C'est-à-dire qu'il a demandé à ce qu'on l'attache. On l'attache à la barre, au volant, hein, au bateau. Bon, vous avez vu, il a mis le bateau face à la vague parce que c'est ce qu'il faut toujours faire. Et ensuite, il a demandé à ce qu'on l'attache pour que rien ne lui permette de lâcher la barre et d'aller se cacher ou je ne sais quoi. Donc je trouve que c'est un bel exemple de la fidélité où on s'interdit intérieurement de quitter le poste.